il y a un an ou deux, c'était de réintégrer les études du travail dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise. Ce problème est loin d'être résolu, mais il semble être sorti très largement des esprits. L'atmosphère psychologique, sociologique a changé du tout au tout. La question maintenant n'est plus tellement de savoir comment réintégrer les exclus, elle est de savoir comment rattraper le train ultra rapide de la nouvelle économie, comment libérer des énergies, des inventives, des capacités d'initiative, etc. C'est dans ce contexte-là que vous réfléchissez sur la perspective d'une transformation du modèle salarial, disons, en un modèle entrepreneurial. Eh bien, cette perspective, c'est pour ça que j'ai été perplexe, je crois qu'elle elle peut déboucher sur le pire ou sur le meilleur, et qu'il faut être extrêmement prudent en la matière et tenter de faire la part des choses de la façon la plus sereine possible. Je voudrais tout d'abord décrire, donner quelques éléments d'analyse sur l'ambivalence de ce modèle entrepreneurial, sur certains de ses avantages et certains de ses risques, et puis, deuxièmement, j'essaierai d'esquisser ce que pourrait être un nouveau contrat social vers lequel nous tendons tous. Nous savons bien qu'il faut réformer profondément tout un ensemble de choses. Pour être honnête, de prime abord, l'idée d'un modèle entrepreneurial généralisé, l'idée même de devenir entrepreneur de soi, ne me séduit pas. Ne me séduit pas si on la comprend d'une certaine façon. Et vous verrez bien avec moi qu'elle peut être inquiétante. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel monde vivrions-nous si nous devenions tous des entrepreneurs de nous-mêmes, entendu à un certain sens? Eh bien, cela voudrait dire que nous commencerions à gérer toute notre existence sur le modèle de la gestion d'entreprise. Ça veut dire que nous nous considérerions comme une sorte de capital à gérer. Non seulement nous aurions un portefeuille d'actions, d'obligations, mais toutes nos actions, toutes nos passions, tous les investissements affectifs, nous essaierions de les gérer rationnellement, de façon à ce qu'il y ait le meilleur retour sur investissement affectif. Bon, c'est pas très galvanisant. Mais... je me sens moins seul. Mais bien sûr, je crois que ce n'est pas cette idée-là que le CJD a en tête, et Bob Audrey non plus, ce n'est pas cette vision comptable de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus probablement la vision que développait l'économiste Joseph Schumpeter lorsqu'il parlait d'entrepreneur. L'entrepreneur, au fond, c'est l'aventurier, c'est celui qui invente, c'est celui qui vit dans la passion, de l'innovation, de ce que Schumpeter a fait la création destructrice. Alors, si on pose le problème dans ces termes, bah, évidemment, ça devient tout de suite beaucoup plus évident, cette perspective de transformer des salariés, un petit peu passifs, soumis à des hiérarchies, à des subordinations, en innovateurs passionnés. Je formulerais volontiers la question ainsi posée dans les termes de la philosophe, envoyée par la philosophe Hannah Arendt, à mon avis l'esprit, il y a des esprits les plus aigus du XXe siècle, la seule qui nous permet de comprendre ces phénomènes monstrueux qu'ont été les totalitarismes, nazis ou communistes, et qui distingue trois grands types d'activités, qu'elle appelle le travail, première activité, qu'elle désigne comme quelque chose de purement instrumental, voué à la reproduction de la vie matérielle quotidienne. Et puis deuxièmement, ce qu'elle appelle l'œuvre, par laquelle les hommes créent des objets qui restent dans la mémoire des hommes. Et puis en troisième lieu, ce qu'elle mettait au sommet de la hiérarchie de l'activité, l'action. L'action, autrement dit, la capacité de faire advenir du nouveau en commun. Voilà l'activité la plus proprement humaine, la plus essentielle, disait Arendt. Vous le voyez bien dans cette trilogie de Hannah Arendt, le travail est tout à fait au bas de la hiérarchie. Et c'est vrai que Arendt s'inspirait d'un modèle grec ancien, dans lequel le travail était réservé aux esclaves, et puis l'organisation salariale de son temps, dans les années 1940-50, c'était le taylorisme, c'était au fond pas si éloigné que ça, de l'esclavage. Or voilà, et je crois que c'est le travail ici, voilà qu'apparaît tout à coup une nouvelle perspective, faire se retrouver, coïncider à nouveau le travail et l'action. Faire que ce soit dans le monde du travail que l'on puisse entreprendre en commun, innover en commun. Voilà une thématique qui vous agite, qui agite aussi une autre partie d'un autre patronat, le MEDEF, pour le pire ou le meilleur, là encore, qui curieusement, d'ailleurs, agite aussi certains auteurs marxistes, des marxistes italiens considèrent que dans la société contemporaine, il n'y a plus que dans la sphère du travail que l'on puisse déployer de l'action au sens de Hannah Arendt, que l'on puisse trouver des aventures amusantes, passionnantes, à vivre. Bien. Cela est-il possible? Pouvons-nous tous devenir des entrepreneurs et faire muter ainsi le modèle salarial? Moi, je vois au moins quatre séries de difficultés qu'il faudrait surmonter si nous voulons aller dans cette direction-là.